vous le savez bien, pour qu'on vous laisse entrer dans le village de Roland-Garros, ou pour que vous ayez accès aux loges, aux nouvelles loges du nouveau stade de la section paloise, vous avez intérêt à avoir une carte avec trois lettres inscrites dessus. Une carte VIP, Very Important People, ou Personne Très Importante. Et vous avez des exemples de ces cartes que vous avez toujours voulu avoir, enfin, que j'ai toujours voulu avoir, que j'ai jamais eu, sur l'écran. Je me suis toujours demandé comment, ou l'effet que cela faisait de se promener avec dans sa poche une carte VIP, de l'avoir tout le temps sur soi, ou de s'asseoir dans une loge marquée VIP, enfin, d'être partout reconnu comme une VIP. Je me demande si, quand même, à la longue, ça ne doit pas un peu monter à la tête, en passant par les chevilles, comme vous dites les Français, le gonflement des chevilles, ou par le cou, comme le disent les Belges, les dickenecks. Ou pour parler de manière biblique, ces cartes VIP nous feraient gonfler la personne, gonfler d'importance. Ça ne doit pas être facile d'être une VIP. Et vous vous demandez pourquoi je me pose tant de questions sur les VIP et quel est le rapport avec les deux textes que nous avons lus tout à l'heure, et même le rapport entre les deux textes que nous avons lus, l'un de l'Ancien Testament, du prophète Daniel, l'autre de l'Épître de Pierre. Eh bien, dans ces deux textes, il est question d'orgueil et aussi d'humilité. Et c'est ce dont nous allons parler un petit peu ce matin. Alors, comme le disait Pascal, le philosophe, il n'est pas facile de parler humblement de l'humilité. Et donc, je marche sur des œufs. Et le chat, d'ailleurs, était le chat de Philippe Geluck, qui n'est pas philosophe, mais enfin, c'est-à-dire, au fond, je crois que si j'avais un peu plus d'humilité, je serais vraiment parfait. Voilà, je marche sur des œufs. Bon, et le premier passage du prophète Daniel nous parle de Nabucodonosor ou de Nebuchadnezzar, c'est la même chose, qui n'est pas n'importe qui est même roi de Babylone, de l'Empire babylonien, qui a fait quelques trucs dans sa vie, mais qui est pris en flagrant délit d'orgueil. Pourtant, il y avait de quoi être content de soi, mais il est pris en flagrant délit, et avec Dieu, ça ne passe pas, l'orgueil. Et il a une maladie bizarre qui lui fait manger de l'herbe, c'est assez humiliant, et puis il revient à tous ses sens et il glorifie Dieu. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil, dit Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ou Nebu, on va l'appeler comme ça, de l'orgueil à l'humilité. Et puis, il y a le deuxième passage que nous avons lu, la lettre de Pierre aux églises qui sont en Asie mineure, la Turquie actuelle, qu'il a écrite en 64 après Jésus-Christ, et qui s'adresse à tous ces chrétiens dispersés, disséminés dans l'Empire romain qui fait pression sur eux. Et dans cette lettre, nous faisons une série de prédications sur la lettre de Pierre à ses églises. Et après 8 ou 9 prédications, nous en sommes arrivés au chapitre 5. Et là, Pierre nous parle, et vous l'avez certainement saisi au passage, du risque pour les responsables de l'Église de se gonfler d'importance, de devenir des dictateurs, et donc de manquer de la plus élémentaire humilité. Mais je passe très vite sur cette question, mais les responsables de la communauté ne forment pas la seule population à risque à ce niveau-là. Il y a aussi les jeunes qui se trouvent parfois pleins de force, pleins de puissance, pleins d'idées nouvelles, pleins d'énergie, pleins d'entrain, et qui peuvent parfois aussi prendre la grosse tête. Et Pierre leur dit, n'oubliez pas l'humilité, vous aussi. Soumettez-vous aux anciens. Oh, wow. Et ce rappel vaut en fait pour tout le monde, puisqu'il dit un peu plus loin, au verset 6, je crois, « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, revêtez-vous tous d'humilité. Vous êtes aux yeux de Dieu des VIP, c'est clair. Son amour fait de vous des êtres précieux, mais dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, nous dit Pierre. » Et cet appel à l'humilité est une constante dans le Nouveau Testament, dans la Bible en général. Et dans le Nouveau Testament en particulier, on en appelle à l'humilité au moins autant qu'à l'unité. Et je me demande même si les deux ne sont pas intrinsèquement liés. Dans chaque lettre aux églises, les auteurs du Nouveau Testament passent par la case humilité. « Laissez-vous attirer par ce qui est humble », dit Paul à l'église qui est à Rome. « Habillez-vous d'humilité », dit Paul à l'église qui est à Colosse. Ou à l'église qui est à Éphèse, « Marchez d'une manière digne, en toute humilité ». Et puis nous avons Pierre qui nous dit « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Conduit par l'Esprit, il nous appelle à l'humilité. Et il y a plusieurs fois cette image d'habillement qui va avec l'humilité. Mais revêtez-vous d'humilité. Habillez-vous d'humilité pour présenter l'humilité comme quelque chose qui nous accompagne tous les jours, comme un habit que l'on porte tous les jours, comme un mode de vie. L'humilité comme un mode de vie. Et donc il y a dans le Nouveau Testament un appel clair de Dieu à adopter cette mode vestimentaire, ou plutôt ce mode de vie. Et il est intéressant de noter qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait nouveau à l'époque, au premier siècle, après Jésus-Christ. Dans la philosophie grecque, et nous sommes au premier siècle, dans une ambiance de philosophie grecque, c'est elle qui tient le haut du pavé. Dans la philosophie grecque, l'humilité n'est pas prisée, n'est pas tenu en compte, n'est presque pas connu. On parle plutôt de la fierté aristotélicienne. Vous savez, vous vous souvenez, Platon, Aristote, les deux grands philosophes grecs, on parle de la fierté. Mais l'humilité n'est pas prisée chez les Grecs, ni dans la philosophie en général. Et même jusqu'au vocabulaire, j'ai appris que le mot « humilité » n'est pas présent dans la littérature avant le Nouveau Testament. Ce sont les chrétiens, les auteurs chrétiens qui, à la suite de l'Ancien Testament, ont repris le mot même, humilité, et l'ont remis à la mode, le mode de vie chrétien, ou le mode de vie chrétienne. Alors on pourrait se demander pourquoi ce retour des chrétiens à l'humilité, pourquoi cette insistance à l'humilité. Et d'abord, parce qu'il y a un exemple en Jésus-Christ, l'humilité de Jésus-Christ. Si les auteurs du Nouveau Testament insistent sur l'humilité, ce n'est pas juste pour lancer une nouvelle mode vestimentaire ou pour contrer la philosophie ambiante, mais parce qu'ils ont un exemple extraordinaire d'humilité en la personne qui est au centre de la foi chrétienne, Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'humilité faite chair, l'humilité incarnée. Et donc, si l'humilité est un thème si important de la foi chrétienne, il ne faut pas chercher plus loin. C'est parce qu'en Jésus-Christ, nous avons un exemple d'humilité, parce que l'humilité est charnellement liée à Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre frère, notre ami, est un exemple d'humilité. Et quand il s'adresse à l'église qui est à Philippe, aux Philippiens, il y a quelques membres de l'église de Philippe qui ont un égo peut-être surdimensionné. Et Paul va rappeler l'exemple du Christ dans un magnifique texte de Philippiens 2, où il va parler de Jésus qui est devenu serviteur, esclave, tout cela pour le salut des hommes. Et Paul va dire à la fin, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. » Et quelle était la pensée de Jésus-Christ ? C'était la pensée de l'humilité. Et puis il y a une deuxième raison, peut-être plus fonctionnel pour se revêtir d'humilité dans nos rapports mutuels, c'est que l'humilité fonctionne comme une huile moteur dans les rapports humains. Parce que Paul et Pierre s'adressent à des communautés qui sont composées de chrétiens nouvelle génération, qui vivent leur foi, qui sont régénérés, qui marchent dans l'esprit, mais qui se frottent quand même les uns les autres, qui se frictionnent et qui parfois même peuvent s'échauffer. Et l'humilité vient comme une huile pour lubrifier, qui empêche la montée de la température, qui réduit les frictions entre les pièces semi-abrasives et qui aussi prolonge la longévité de ce moteur à explosion que constitue l'Église, le corps de Christ. encore en chemin, en route vers l'accomplissement final. L'humilité comme une huile dans les relations pour toutes les communautés, pas seulement l'Église, pour les groupes d'amis, pour le couple, pour les familles, dans les équipes de travail. On a besoin d'humilité et il faut pouvoir toujours ajouter un petit peu d'huile, non pas sur le feu, mais dans les rouages de nos relations mutuelles. Par exemple, en recherchant l'intérêt de l'autre, comme le dit aussi Paul dans l'Épître aux Philippiens, comme Jésus l'a fait. Et on connaît tous de ces situations, de ces conversations qui se seraient beaucoup mieux passées si on avait ajouté un petit peu d'humilité. Moi, j'en connais. J'espère que vous en connaissez et que vous ne me laissez pas tout seul. Mais j'en connais. De ces conversations que j'ai eues qui se seraient beaucoup mieux passées si j'avais pu ajouter, à ce moment-là, une petite goutte d'huile d'humilité. Deux raisons pour se décider à se revêtir d'humilité. Mais comment le faire? Et je vous propose quelques pistes tirées de la parole de Dieu. Et pour la première, je reviens à ce passage de Philippiens 2 qui nous parle de l'humilité de Christ. Une humilité qui passe par un dépouillement. Lui, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Un texte magnifique. Mais qui pourrait poser question en particulier du dépouillement. Jusqu'à quel point Jésus s'est-il dépouillé? On s'est demandé s'il s'était dépouillé, vidé de sa nature divine pour devenir homme, qu'il perdrait sa nature divine, son être divin? Non. Tout le Nouveau Testament et même l'expression dépouillement montre ici qu'on parle d'un dépouillement qui ne touche pas à l'être, à la nature du Christ, mais plutôt à son mode d'être, à son mode d'existence. Jésus s'est dépouillé de la gloire qu'il avait avant son incarnation. Parce que la Bible nous indique que Jésus préexistait avant son incarnation, dans la Trinité. Mais il s'est dépouillé de cette gloire, de ses privilèges, on pourrait dire, qu'il avait avant son incarnation, de sa richesse. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Tous ses privilèges liés à son mode d'existence avant l'incarnation, j'ai envie de dire que tout cela, il l'a mis entre parenthèses. Et il l'a fait par humilité. Par humilité, il n'a pas hésité à naître parmi les hommes, à prendre un nouveau mode d'existence, une nouvelle condition, la condition humaine avec toutes ses limitations. Et le texte de Philippiens 2 nous dit, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il ne cherche pas à profiter de l'égalité avec Dieu. On pourrait traduire, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Et dans le mot proie, il y a l'idée de vol avec violence. Il n'a pas essayé de saisir l'aubaine de sa condition divine. Il n'a pas cherché à tirer avantage de sa condition, de son rang. Il n'a pas cherché à faire valoir ses droits, à profiter de sa condition, c'est-à-dire tirer du profit, mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant un autre mode d'existence, la condition de serviteur. Et donc, Jésus nous suggère un moyen de vivre l'humilité, à savoir le dépouillement. Et il s'agirait pour nous d'apprendre à nous dépouiller. Une clé pour se revêtir d'humilité, c'est se dépouiller. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour nous, se dépouiller? Je vous propose une petite illustration que j'ai lue dans un commentaire. On a demandé à un spécialiste en ressources humaines comment il pouvait juger d'un bon travailleur. Il a répondu, « Si vous voulez savoir ce que vaut véritablement un travailleur, ne lui donnez pas des responsabilités, donnez-lui des privilèges. » Et là, je reprends ce qui est écrit. « La plupart des gens peuvent exercer des responsabilités si on les paye suffisamment bien, mais il faut être très bon pour pouvoir maîtriser les privilèges. Le véritable leader utilisera ses privilèges pour aider les autres. L'homme intéressé se servira de ses privilèges pour ses propres avantages. » Et il me semble que ce spécialiste en ressources humaines met le doigt sur le point important de l'être humain et en particulier sur le lieu stratégique de l'humilité, à savoir les privilèges. C'est là, au niveau des privilèges, que l'humilité se joue ou se déjoue, dans la manière que l'on a de gérer les privilèges. Est-ce que je les fais valoir sans cesse? Est-ce que j'essaye de les mettre en avant ou d'en tirer avantage pour faire pression, d'en tirer profit pour m'imposer sur le marché des relations, pour m'affirmer devant les hommes ou devant Dieu même? Est-ce que mes privilèges sont pour moi des proies à arracher, des aubaines à saisir? Et je me risque dans une liste de privilèges. C'est vraiment très risqué, mais voilà. Une bonne éducation, un bon milieu, une aisance dans les conversations, une grande capacité à entrer en contact avec les autres, une capacité de travail qui dépasse la moyenne, une sagesse dans la vie, une vivacité d'esprit, une culture très intéressante, une spiritualité naturellement enthousiaste, une piété solide et disciplinée, des talents, des dons spirituels même. Et il n'y a rien de mauvais là-dedans, au contraire, pour certaines choses. Mais la question est de savoir ce que j'en fais de ces privilèges. Est-ce que j'en fais un petit tas pour monter dessus et m'élever au-dessus de la mêlée? Ou je choisis la voie de l'humilité et du dépouillement? Et quand on parle du dépouillement, il faut bien se comprendre, il ne s'agit pas de se dépouiller de soi, de sa personne, ni de sa personnalité, comme Jésus ne s'est pas dépouillé de sa nature divine. Il ne s'agit même pas de se dépouiller physiquement, de renoncer à ses privilèges. Il me semble que ce dépouillement est essentiellement intérieur, consiste à lâcher prise intérieurement par rapport à ces domaines. Être humble, c'est étendre sa capacité à lâcher prise, à lâcher le contrôle de ses privilèges. Il ne s'agit pas de les nier, mais de les reconnaître, mais de savoir les mettre entre parenthèses, de refuser volontairement d'en tirer profit ou en tirer avantage pour soi. C'est le lâcher prise. Et nous pourrions réfléchir à l'un ou l'autre domaine de notre vie où il faut peut-être un peu lâcher prise, où l'on risque, si on continue à gonfler les chevilles ou le cou, ou le physique entièrement, ou la vaine gloire, comme dit la Bible. Et je me dis qu'on est peut-être mal placé pour voir un petit peu la zone à risque chez nous. On peut peut-être demander à un ami, tiens, qu'est-ce que tu penses que je risquerais un petit peu de m'enorgueillir? Quelle est la zone à risque pour moi? Et peut-être on pourrait se demander aussi du côté de ce qui nous vexe le plus. Dans quel domaine ou sur quelle question je suis le plus souvent et profondément vexé ou susceptible? Et peut-être que là où je suis le plus souvent vexé, c'est peut-être là où j'ai besoin de lâcher prise, où j'ai des prétentions qui serait excessive. C'est peut-être là où je dois me dépouiller pour revêtir d'humilité. Et puis, une deuxième piste, et pour cette deuxième piste, je reviens à ce passage de 1 Pierre 5 qui nous parle d'humilité, mais qui, pour l'humilité, nous renvoie à une personne, nous place devant une personne qui nous renvoie devant Dieu. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Dieu se heurte aux orgueilleux, et les orgueilleux se heurtent à lui car ils le sont trop pour reconnaître leur besoin de lui. Mais Dieu aime les humbles, et les humbles le sont assez pour reconnaître le besoin de sa présence dans leur vie. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et vous avez dû le lire dans la Bible, parce que ça revient à maintes reprises. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure, cette histoire de Nebuchadnezzar, montre qu'il peut s'agir de la même personne, à la fois à un moment orgueilleuse, mais aussi qui passe à l'humilité. Nebuchadnezzar, qui est pris d'un accès d'orgueil, il se promenait sur la terrasse. Et ça me fait penser à David qui se promenait sur la terrasse aussi. Ah non, c'est Bathsheba qui était sur la terrasse. Enfin, il se promenait quand même. Mais ce n'est pas bon de se promener sur la terrasse. Et il prit la parole, Nebuchadnezzar, et il se dit, « N'est-ce pas là Babylone la Grande que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Il y a un peu de VIP qui lui monte à la tête, mais la royauté lui est directement retirée. L'orgueil précède la chute, et là, pour Nebuchadnezzar, elle est énorme. Il arrive plus bas que terre, Et le principe de l'abaissement de l'orgueilleux, dans cette histoire, est assez rapide. Il peut prendre un peu plus de temps, mais tout orgueilleux sera abaissé un jour. Mais Satan, après, le même personnage, va s'humilier devant Dieu, tout simplement retrouver le sens des réalités de sa position devant Dieu. Il va reconnaître qui est Dieu. Au terme du temps annoncé, je lis dans Daniel 4, « Moi, Nabuchodonosor, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je me suis placé devant Dieu et la raison me revint. » L'orgueilleux devient humble et il le redevient devant Dieu. Les yeux vers le ciel et la raison me revint. Et quand Pierre écrit de se tenir humblement sous la main puissante de Dieu, on pourrait dire « humiliez-vous sous la main puissante de Dieu », on se dit que c'est là où effectivement commence la véritable humilité, devant Dieu. L'humilité commence à genoux, devant Dieu, quand on se met concrètement à reconnaître notre dépendance vis-à-vis de Dieu en tant qu'être créé, limité et surtout aimé par lui, dépendant de cet amour. Oui, je suis une VIP, et vous êtes une VIP, mais dans la mesure où je reconnais que c'est lui qui me donne toute mon importance, que c'est son amour qui me fonde, que c'est le don de son Fils qui me donne l'espérance, et que c'est lui qui me donne une nouvelle identité pour une vie nouvelle. Et sans cette référence à Dieu, l'humilité devient un exercice moral qui, en fait, renforce l'orgueil. Comme le disait le chat de Philippe Gueluc tout à l'heure. On joue à être humble, mais c'est un jeu hypocrite et dangereux où l'on peut se perdre. Mais la véritable humilité, c'est se placer devant ce Dieu infiniment grand qui existe de par lui-même et qui n'a pas besoin de nous pour exister. Se placer devant ce Dieu et se dire « Qui suis-je pour prétendre être le centre du monde ? Qui suis-je pour dire que je suis une VIP plus importante que les autres. » Et comme le dit Paul d'une façon très directe aux Corinthiens, je pense, tout revient à Dieu. Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te, littéralement, gonfles-tu? Et là aussi, l'humilité semble relever du simple bon sens. Parce que je me suis placé devant ce Dieu infiniment grand, je vais rester humble. Et la véritable humilité, c'est savoir se placer devant ce Dieu infiniment bon, infiniment patient, qui offre sa grâce à quiconque veut bien humblement l'accepter et en vivre. Et donc se placer devant ce Dieu infiniment bon et se dire « Qui suis-je pour ne pas aimer cet autre que Dieu aime ? Qui suis-je pour ne penser qu'à mes propres intérêts ? Qui suis-je pour perdre patience avec les autres alors que Dieu prend patience avec moi depuis des années ?» Parce que je me serais placé devant ce Dieu infiniment bon, je vais rester humble. La véritable humilité, c'est savoir se placer devant ce Dieu infiniment juste, qui voit toutes choses et qui sait toutes choses, et se dire, qui suis-je pour avoir une opinion si grande de moi-même ? Qui suis-je pour avoir de telles prétentions ? Et parce que je me serais placé devant ce Dieu infiniment juste, je pourrais vivre dans cette humilité. C'est dans ce face-à-face avec Dieu, avec le Dieu de la Bible, dans une relation avec lui rendue possible par Jésus-Christ, qui est devenu serviteur, qui s'est dépouillé jusqu'à la mort sur la croix. C'est dans cette relation avec ce Dieu-là, par Jésus-Christ, que nous trouvons cette humilité à laquelle Pierre nous appelle. Une humilité bien ancrée en profondeur et qui devient tout doucement un mode de vie. Alors on a tous du chemin à faire, moi le premier, mais le Seigneur nous accompagne sur la route par son Saint-Esprit pour que nous ayons au long du chemin, parfois chaotique, la pensée qui était en Jésus-Christ, celle de l'humilité. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Amen.